c'est une joie d'être avec vous. Ça faisait 4 dimanches qu'on était absents, 2 dimanches où j'étais en camp et puis 2 dimanches où on était en vacances. Et vraiment, vous m'avez manqué. Alors, c'est une joie de vous retrouver tous et voilà, d'être parmi vous. C'est aussi une joie d'entendre ce projet de Sarah. Vraiment, tu es un exemple pour nous, Sarah. Voilà, c'est inspirant, j'espère, pour chacun d'entre nous. On a ce désir, qu'on ait aussi ce désir de partager l'Évangile ici à Genève ou ailleurs. Dans les semaines qui viennent, nous allons méditer un petit peu le livre de l'Exode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait étudié le livre de Josué il y a quelques mois en arrière, et on va étudier le livre de l'Exode un peu de la même façon. Ça veut dire qu'on ne va pas lire ensemble tout le livre de l'Exode, mais j'ai choisi quelques passages un petit peu clés pour qu'on ait une vue d'ensemble du livre de l'Exode. Ma prière, c'est que cette petite série, cette très courte série dans l'Exode nous donne un aperçu de ce livre fondamental. Un livre qui nous aide à comprendre le plan de Dieu. Mais surtout, ma prière, c'est que cette petite série nous transforme, qu'elle change nos vies à chacun et qu'elle change notre Église. Alors, quelques mots avant de démarrer. Alors, ça c'est éteint. Voilà. Quelques mots avant de démarrer sur le livre de l'Exode. L'Exode, c'est l'histoire de la libération d'un peuple. C'est un peu ce titre que je donne au livre, c'est « Dieu libère son peuple ». Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, le grand récit biblique, mais je résume en quelques phrases. Si vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez les personnages de la Genèse, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et puis, on termine le livre de la Genèse avec la mort de Joseph en Égypte. Et puis, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui vient d'arriver en Égypte pour échapper à la famine. En fait, c'est pas vraiment un peuple à ce moment-là. C'est juste une famille, à peu près 70, 70 personnes qui arrivent en Égypte et qui sont sauvées, en fait, par Dieu en Égypte de cela. Et puis, pendant plusieurs siècles, on n'a plus trop de nouvelles. Toutes les nouvelles qu'on a, ça se trouve dans le premier chapitre de l'Exode, c'est très succinct. Ce qu'on sait, c'est que petit à petit, le peuple se multiplie. Le roi d'Égypte, Pharaon, commence à avoir un peu peur de ce peuple qui devient de plus en plus nombreux et qui peut-être pourrait devenir même plus nombreux que les Égyptiens et qui pourrait peut-être organiser une grande révolution. Et du coup, ils essaient de limiter la croissance de ce peuple. Ils utilisent deux stratégies. Une première dure, mais moins dure que la deuxième. La première stratégie, c'est qu'ils vont leur imposer des travaux difficiles, des travaux d'esclavage et des travaux de plus en plus pénibles pour que voilà, ça les empêche de trop se multiplier. Puis la deuxième stratégie, beaucoup plus dure, c'est qu'ils vont s'en prendre aux nouveau-nés. Ils vont essayer de convaincre les sages-femmes égyptiennes, les sages-femmes des Hébreux, Shifra et Pua, si c'est un garçon, de ne pas le laisser vivre au moment de la naissance. Et puis, voyant que Shifra et Pua n'obéissent pas à cela, ils vont carrément demander, le pharaon va carrément demander au peuple égyptien d'aller noyer les nouveau-nés garçons dans le Nil. Donc, on voit une atmosphère qui devient de plus en plus difficile. Et puis, après une longue période d'esclavage, 4 siècles passés en Égypte, Dieu intervient pour libérer son peuple. Et le livre de l'Exode nous raconte la grande histoire de cette libération. Alors ce livre, il est essentiel dans nos Bibles pour au moins 2 raisons. Premièrement, pour une raison historique. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Si vous avez participé au groupe de maison l'année passée, vous vous souvenez sans doute que Dieu avait promis en Genèse 15 que le peuple serait esclave pendant 400 ans en Égypte et qu'après 400 ans d'esclavage, il serait libéré, il reviendrait dans le pays de Canaan. Dieu avait annoncé cette libération. Mais en plus de cela, Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Il lui avait promis que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Et par conséquent, le peuple ne pouvait pas juste s'éteindre en Égypte. Le peuple ne pouvait pas juste se mêler aux Égyptiens et puis voilà, petit à petit, on aurait perdu sa trace. C'était impossible. Dieu avait fait des promesses. Dieu avait un projet, il a un projet, et fait avancer son plan jusqu'à la venue de Jésus-Christ, le Messie. Donc l'Exode est essentiel pour pouvoir comprendre le fil de l'histoire de ce peuple jusqu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à la venue du Messie. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle ce livre est essentiel. C'est une raison qui est... La première, vous vous souvenez, elle était plutôt historique. Et la deuxième, maintenant, elle est plutôt théologique. La libération de l'esclavage égyptien nous fait penser, en fait, à un grand thème qui traverse toute la Bible. Il y a un ennemi plus terrible encore que l'Égypte. Cet ennemi s'appelle le péché. Et... Dieu, dans le Nouveau Testament, se présente comme le grand libérateur. Comme Moïse a été le grand libérateur d'Égypte, Christ est le libérateur suprême, le libérateur du péché. Et il y a comme certaines similitudes entre cette libération de l'esclavage d'Égypte et la libération, la grande libération, de l'esclavage du péché. Ce thème, esclavage, libération, revient tout au long de la Bible. Si vous lisez les épîtres du Nouveau Testament, ce thème, esclavage, libération, revient sans cesse. Ce grand acte d'affranchissement des esclaves que nous étions s'accomplit sur la croix par Jésus-Christ. Voilà, je m'arrête là avec ces quelques mots d'introduction. On se lance dans le premier texte qu'on va lire maintenant. On ne va pas lire le chapitre 1, mais on va sauter directement au chapitre 2. Et je vais le lire dans une seconde, mais juste avant de le lire, je vous replace dans le contexte. Donc, Pharaon a utilisé une méthode terrible. Il a demandé au peuple égyptien de mettre à mort tous les nouveau-nés garçons en les noyant dans le Nil. Tout cela pour limiter la croissance du peuple d'Israël. Et on va voir qu'il y a un homme, un bébé, un nourrisson, qui va être épargné d'une manière tout à fait miraculeuse. Donc c'est Exode chapitre 2, je vais lire tout le chapitre. Si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher, c'est facile à trouver puisque l'Exode c'est le deuxième livre de la Bible, mais si vous n'avez pas votre Bible, j'ai ici le texte. Ah pardon. Donc le titre que j'ai donné à ce chapitre, c'est le suivant, c'est « Un homme sauvé », Moïse, donc « Un homme sauvé », on va voir que c'est vraiment Dieu qui agit, c'est pas lui qui se sauve tout seul, c'est Dieu qui agit, « Un homme sauvé pour sauver un peuple ». On voit, c'est le début de l'histoire de la libération, comme si, de manière embryonnaire, le sauvetage de Moïse est nécessaire pour arriver au sauvetage du peuple, un homme sauvé pour sauver un peuple. Voici le texte que je vous lis. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et alla le cacher pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour voir ce qui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve, elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante le prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ? Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit : Emmène cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort : Pourquoi frappes-tu ton prochain ? Cet homme répondit alors : Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, comme tu as tué l'Égyptien, tout comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur et se dit : L'affaire est certainement connue. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire leur troupeau, le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda : Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ? Elles répondirent : Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Réuel dit à ses filles : Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Geshrom, car dit-il : Je suis en exil dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et comprit leur situation. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir 4 choses, 4 points dans ce texte. Et je vais revenir peut-être en arrière pour que vous ayez le texte sous les yeux au fur et à mesure. Premier point, nous voyons un homme condamné. Moïse était un homme condamné de bien des manières. Le pharaon avait dit à son peuple, vous pouvez lire ça, c'est dans Exode 1, 22, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Dès sa naissance, sans qu'il ait aucune possibilité d'action, Moïse n'aurait pas dû vivre. Sa maman le cache et puis elle tente un espèce de moyen ultime de sauvetage en l'abandonnant sur le Nil. Ces événements qui sont très courts, hein, c'est juste 5 versets, mais qui sont très riches. J'aimerais faire quelques remarques sur cela. Quelques remarques qu'on ne voit peut-être pas au premier abord, mais qui pourtant, quand on creuse un petit peu, nous apprennent beaucoup de choses. Première remarque, il y a comme une similitude entre le sauvetage de l'humanité à l'époque de Noé et le sauvetage de Moïse à ce moment-là. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle a recouvert cette caisse de bitume et de poids. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est exactement la même chose qui se passe au moment de la... Enfin, c'est ce que Dieu ordonne à Noé au moment de la construction de l'arche. Alors j'ai creusé un petit peu plus et je me suis rendu compte que le mot « arche » en hébreu, que j'ai noté ici, c'est « tebat », le mot qui est traduit par « l'arche », le bateau, dans Genèse 6 à 9, est le même mot qui est utilisé ici pour parler de cette caisse de jonc. Et pour vraiment que les choses soient flagrantes, en fait, ce mot n'est présent que dans ces 2 passages dans la Bible entière. que dans Genèse 6 à 9 et dans Exode 2. Comme si Dieu voulait nous dire, regardez là, il se passe quelque chose d'un petit peu similaire. Il y a un lien à faire entre le sauvetage de l'humanité à l'époque de Noé et le sauvetage de mon peuple qui commence avec le sauvetage de Moïse dans Exode chapitre 2. C'est trop flagrant pour que ça passe inaperçu. C'est tellement net que Dieu a voulu ce lien entre ces deux passages. Les lecteurs du livre de l'Exode ne pouvaient pas passer à côté de ça, parce qu'en plus, ils l'entendaient en hébreu. Donc, ça semblait évident pour eux qu'il y avait quelque chose à voir entre ces deux événements. Deuxième remarque, il y a une autre similitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une similitude entre le sauvetage que Moïse va opérer et le sauvetage que Jésus va opérer. Dieu, là aussi, crée comme une connexion entre ces deux événements. Vous avez remarqué, dans les deux cas, on a un monarque qui se sent en danger. Ici, Pharaon. À l'époque de Jésus, Hérode. Dans les deux cas, on a, face au danger, un monarque qui prend des mesures terribles. Le massacre des enfants. Et dans les deux cas, on a un enfant sauvé au milieu de sa génération pour libérer le peuple de Dieu. Vous voyez comment Dieu fait comme des rappels. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est le même événement ou quelque chose comme ça, mais Dieu, par la manière dont il conduit l'histoire, nous montre, regardez, il y a une similitude entre ces différentes choses qui sont en train de se passer. Troisième remarque que j'aimerais faire sur ce passage, l'objet, en fait, ce qui devait servir à tuer les garçons hébreux, c'était le fleuve. Et d'une manière un petit peu ironique, ce qui va servir à sauver Moïse, c'est justement que sa maman va mettre son bébé sur le fleuve. Non pas pour le tuer, mais pour le sauver. Il s'agit bel et bien d'un acte probablement désespéré, d'une mère qui va comme mettre son enfant dans la gueule du lion, à l'endroit où il ne fallait pas le mettre. Si un autre citoyen égyptien l'avait vu là, sur le fleuve, il aurait juste retourné la caisse, et puis c'était terminé. Même la fille de Pharaon, la réaction normale qu'elle aurait dû avoir en ouvrant la caisse, c'est de dire, c'est un garçon. Elle le dit d'ailleurs, elle dit, c'est un garçon. Et puis elle dit, mais c'est un garçon des Hébreux. Donc la réaction normale, c'était juste de retourner la caisse et de laisser Moïse là. Donc on voit que c'est vraiment Dieu qui conduit les choses. C'est absolument flagrant. Il n'y avait aucune chance pour que Moïse survive. Puis la quatrième remarque que j'aimerais dire, c'est que la famille de Moïse s'attend à Dieu vraiment dans cet événement. Hein. La stratégie de la maman, cet acte désespéré de la maman, et puis cette sœur qui reste là quand même, qui observe ce qui va se passer. On voit que ce n'est pas juste un enfant qui est voué à la mort et puis que voilà, on le met là, mais on sait que... Non, il y a une certaine confiance. Enfin, peut-être pas une confiance, mais en tout cas, une attente que Dieu agisse. Et puis, on va voir dans le deuxième point que Dieu va agir. Qu'est-ce qu'on apprend avec ces différents points ? On apprend que Moïse, dès le départ, sera un homme qui viendra sauver, un homme qui viendra libérer son peuple. Moïse, dès sa naissance, est choisi par Dieu. Il est en fait, en quelque sorte, mis à part par Dieu pour accomplir cette mission. Sans l'action de Dieu, rien de tout cela n'aurait été possible. Humainement parlant, Moïse aurait dû mourir. Et humainement parlant, c'est le premier point, Moïse est un homme condamné. Mais on va un peu plus loin et on voit un homme sauvé, c'est le deuxième point. Ce n'est pas n'importe quel citoyen égyptien qui va trouver Moïse, c'est la fille de Pharaon. Et on voit, c'est tellement flagrant de voir le contrôle de Dieu dans cette situation. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. C'est un petit peu comme dire, comme par hasard, un hasard avec un grand D, la fille de Pharaon descend à ce moment-là, celle qui est peut-être probablement été la seule qui... Enfin, dans la cour, une des seules personnes qui pouvait choisir d'épargner un enfant hébreu. Dans ce mot « or », alors je ne sais pas quel est le mot en hébreu, mais dans ce mot-là, c'est comme si Dieu était là dans ce mot-là, hein, même s'il n'est pas mentionné, il est là. Mais il n'est pas là qu'à ce moment-là. Au moment où cette fille de Pharaon ouvre la caisse, qu'est-ce qu'il est dit ? Elle est prise de pitié. Elle aurait pu juste se dire, mais mépriser les Hébreux, comme son père méprisait les Hébreux, et puis dire, ouais, en fait, je vais obéir à l'ordre de mon père. Mais non, on voit que Dieu dirige même les cœurs. Et là, le cœur d'une princesse, il dirige son cœur pour protéger Moïse. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Dieu agit encore de telle sorte, vous avez vu, que Moïse va finalement être quand même élevé, en tout cas pendant quelques mois, peut-être quelques années, par sa propre mère. C'est quand même, c'est quand même incroyable de voir à quel point Dieu agit. C'est sa mère qui va l'allaiter et probablement qui va garder quand même une certaine connexion avec sa mère en tant que sa nourrice pendant des années encore. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand Moïse devient grand, il va être traité comme le petit-fils du Pharaon. Il va être élevé par sa mère, mais en même temps traité comme le petit-fils du Pharaon. Il va avoir probablement une éducation de premier plan. Il sera probablement étudiant dans l'équivalent de l'université d'Harvard de l'époque. Il va devenir vraiment un érudit, et ça va être nécessaire pour la suite de son ministère. On a donc un homme condamné, puis un homme sauvé. Mais pas juste sauvé du bout des lèvres, il n'est pas juste sauvé in extremis. Il est sauvé, il est même élevé dans la société égyptienne d'une manière vraiment miraculeuse. Troisième point, un homme en danger. Ça ne suffisait pas tout ça, alors pour être sûr que c'était vraiment Dieu qui agissait et Dieu qui était au contrôle de la situation, Moïse en fait va commettre l'irréparable. Il va tuer un Égyptien. Moïse va devenir un meurtrier. Alors on peut dire que Moïse était motivé par de bonnes motivations, de bonnes intentions, mais malgré tout, il s'agit d'un meurtre. Et pire que ça, il va tenter de cacher son crime en enfouissant le corps dans le sable. Mais la vérité éclate et force Moïse à s'enfuir loin d'Égypte. Même en sa qualité de fils adoptif de la fille de Pharaon, il ne pouvait pas être pardonné pour un tel crime. D'ailleurs, le texte précise que le Pharaon cherche à le faire mourir. Tout à coup, la situation change et Moïse doit quitter l'Égypte. Dieu avait tout mis en place pour sauver Moïse. Et maintenant, c'est comme si Dieu perdait le contrôle. Pas du tout, évidemment. Moïse a perdu tous ses avantages, mais Dieu contrôle bel et bien la situation. Dieu veut enseigner quelque chose à Moïse. Après la richesse de l'Égypte, Moïse va connaître la rudesse du désert. Il va se marier au désert et il va avoir un fils au désert qu'il va appeler Geshrom, parce qu'il est né en exil dans un pays étranger. Et c'est là qu'on arrive au dernier point. Un homme protégé. Dieu le met au large. Il le met à part pour le protéger. Et Moïse arrive au pays de Madian. Et puis là encore, on voit que Dieu est à l'œuvre. Moïse s'arrête auprès d'un puits. Et auprès de ce puits viennent les sept filles du prêtre de Madian. Et voilà que tout à coup, les choses continuent. Moïse est pris en charge. Et puis il se marie dans cette communauté-là. Et puis il devient père dans cette communauté de Madian. Donc, Moïse est comme un petit peu mis sur la touche, en tout cas pendant une période. On peut se dire, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu ? Tu as fait des miracles quand il était bébé, et pourquoi tout à coup il se retrouve là ? Mais en fait, Dieu conduit cette situation. Pourquoi ? Alors, c'est toujours un petit peu dangereux d'essayer de deviner pourquoi Dieu fait les choses. On peut au moins émettre des hypothèses, mais quand ça ne nous est pas révélé, on doit le faire avec beaucoup d'humilité. Ce qui est sûr... c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période dans le désert? Dieu va rentrer en relation avec Moïse. On va le voir dans les prochaines prédications. Il faut dire que Dieu avait grandi en Égypte, probablement sans connaître Dieu, ou en tout cas en ayant une connaissance très limitée de Dieu, très vague. Peut-être qu'il avait entendu parler d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Peut-être qu'il avait certaines notions, mais il avait quand même grandi, il avait été formé dans un milieu très différent, dans un milieu polythéiste. Il fallait donc qu'il soit mis au large, mis à part pour être protégé du Pharaon, mais aussi pour entrer en relation avec Dieu. Et c'est dans cette période-là, au désert, que Dieu va entrer en relation avec lui. Alors pourquoi Dieu a permis ces deux premières étapes qui ont duré 40 ans chacune? C'est pas rien, c'est pas 3 semaines de stage, hein, c'est 40 ans en Égypte et puis 40 ans dans le désert. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ces deux étapes dans la vie de Moïse? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, c'est vraiment les deux aspects de la formation nécessaire de Moïse qui vont être essentiels pour le troisième acte de sa vie. Troisième acte qu'on verra par la suite. Moïse avait besoin de ces deux choses pour mener à bien sa mission. Il avait besoin d'être instruit, ça semble logique, hein. Il fallait un homme érudit, en tout cas il fallait qu'il sache lire, écrire, il fallait qu'il sache juger intelligemment les situations, il fallait qu'il sache conduire le peuple lorsqu'il serait dans le désert. Mais ce n'est pas tout, il fallait aussi qu'il développe une relation avec Dieu, d'où la nécessité de la deuxième partie de sa vie. Il fallait qu'ils connaissent Dieu personnellement pour mener à bien cette mission. On arrive au bout du texte. C'est le moment de prendre un peu de recul par rapport à ce texte. Avant de chercher les applications de ce texte, c'est nécessaire de comprendre ces événements dans leur ensemble et en les replaçant dans le contexte. On a parfois tendance à penser que les hommes et les femmes de la Bible sont un petit peu comme nous, les chrétiens du 21e siècle. Mais en fait, ils ont vécu dans un contexte très différent, ils avaient une culture très différente, ils avaient une connaissance de Dieu très différente de ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. La langue ou les langues qu'ils parlaient étaient différentes. Et même les représentations qu'ils pouvaient avoir de la réalité étaient différentes, les relations étaient différentes. Alors on va essayer juste de comprendre un petit peu ces événements dans leur contexte. J'aimerais faire quelques remarques. Pour cela, qu'est-ce qui saute aux yeux dans ce passage? Première remarque, on voit que Dieu est un libérateur. Le plan de Dieu se déroule au fur et à mesure des siècles. C'est un plan qui change d'apparence, qui peut se dérouler dans différents lieux, avec différentes personnes, mais le but de Dieu reste le même. Il veut sauver son peuple. Il veut libérer des hommes et des femmes qui deviennent membres de son peuple et qui l'adorent. Et dans notre texte ici, on a un petit peu à l'échelle de quelques années, à l'échelle d'un individu, les moyens de voir comment Dieu mène à bien son plan. Moïse a été libéré de la menace du Pharaon qui a tué tous les nouveau-nés. Il est libéré de la menace du Pharaon qui voulait le tuer à la suite de son meurtre. Dieu l'a sauvé en le plaçant d'abord dans la maison du Pharaon et puis en le plaçant ensuite dans le pays de Madian. Mais si on regarde au niveau un petit peu au-dessus, si on regarde au niveau du livre de l'Exode en entier, là aussi Dieu est un Dieu libérateur, un Dieu qui libère son peuple, les Hébreux, de l'esclavage égyptien. Et si on regarde encore au niveau au-dessus, si on regarde au niveau de la Bible entière, on voit que là aussi, Dieu libère, il sauve, il libère de l'ennemi le plus fondamental, de l'esclavage le plus tenace, de l'esclavage du péché. Et vous savez quoi? Le péché est un esclavage si redoutable, si ancré dans l'humanité qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser par nous-mêmes. Vous savez pourquoi le péché est si redoutable? Il est redoutable parce que nous en sommes à la fois les victimes et les auteurs. Ce qui est terrible avec le péché, c'est qu'il est notre ennemi, mais notre cœur est devenu si tordu qu'en fait, nous aimons notre ennemi. On instinctivement, on désire être les esclaves du péché. Mais Dieu nous libère. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu change nos cœurs par la foi en Jésus-Christ. Si nous plaçons notre confiance, notre foi en Jésus, Dieu nous donne des cœurs nouveaux. Il remplace nos cœurs de pierre et nous donne des cœurs de chair. On a une transformation réelle qui s'opère. On devient des nouvelles créatures. Et le miracle devient possible. Nous sommes renouvelés par la foi en Jésus-Christ. C'est la première remarque. Dieu est un libérateur. Deuxième remarque qui me semble sauter aux yeux dans ce texte, c'est que Dieu est un maître. Je trouve que ce texte, il est bourré de détails qui nous montrent que Dieu maîtrise l'histoire. Il maîtrise l'histoire avec un petit H, dans le sens, il maîtrise la vie de Moïse, les détails de son existence, mais il maîtrise aussi l'histoire avec un grand H, dans le sens des contextes géopolitiques et de l'histoire de l'humanité de manière générale. Regardez, je vous relis juste quelques passages pour bien voir l'action de Dieu dans ces événements. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Incroyable. Un peu plus loin, au moment où elle ouvre le panier où est l'enfant, elle est prise de pitié pour lui, alors qu'elle aurait dû le mettre à mort. Puis il nous est dit que la sœur de Moïse alla chercher la mère de l'enfant. Dieu agit. Lorsque Moïse fuit l'Égypte, il s'arrête près d'un puits. Et là, les sept filles du prêtre de Madian viennent pour boire de l'eau. Et à ce moment-là, Moïse entre dans cette communauté de Madian. Et puis, il y a ces derniers versets. Vous avez remarqué que Dieu est totalement absent de tous ces événements, enfin, en tout cas dans le texte. Dieu n'est jamais mentionné. Il est seulement mentionné ici, à partir du verset 24. Tout à coup, on voit Dieu qui écoute. Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. C'est comme si Dieu était là tout au long, sans être mentionné, mais en lame de fond, il prépare, il conduit, il maîtrise toute chose. Et une fois que tout est prêt, tac, il entre en action. Il se souvient de son peuple et son plan va pouvoir se continuer. Va pouvoir continuer. Dieu est présent, il est actif tout au long, il n'est jamais dépassé. Dieu est jamais en fait en train de faire face à de nouvelles circonstances et il n'est jamais pris au dépourvu de ce qui se passe. Il est maître de la situation. Il maîtrise même les pensées des uns et des autres. Il maîtrise la suite des événements. Il maîtrise les forces de la nature. Et ça, on le verra encore plus dans la suite. Dieu est un maître absolu. La troisième remarque que j'aimerais faire et qui saute aux yeux, je trouve, dans ce texte, c'est que Dieu travaille avec les êtres humains, avec les êtres humains, ouais, avec les hommes. Dieu travaille... pourquoi Dieu s'embête-t-il pendant toute cette période à former Moïse? Pourquoi est-ce qu'il met en place toute cette chaîne d'événements pour que Moïse libère le peuple? Est-ce qu'il n'aurait pas pu simplement créer un virus, par exemple, qui s'attaque uniquement à l'ADN égyptien, et puis tout le peuple égyptien serait mort en quelques jours, et puis ça aurait été terminé? Bien sûr que Dieu aurait pu faire ça. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu changer l'esprit des Égyptiens, changer leur pensée, puis donner un ardent désir aux Égyptiens de laisser partir le peuple tout à coup? Bien sûr que Dieu aurait pu faire ça. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu juste tout à coup téléporter son peuple et le remettre dans le pays de Canaan, comme il l'a fait avec Philippe dans le livre des Actes? Bien sûr que Dieu aurait pu faire ça. Mais Dieu n'a choisi aucune de ces méthodes. Il a choisi Moïse. Et il l'a patiemment formé pendant 40 ans en Égypte, puis pendant 40 ans à Madian, pour enfin l'utiliser auprès de Pharaon pour libérer son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Franchement, j'en sais rien. Mais je constate, en lisant les Écritures dans leur ensemble, que Dieu agit souvent de cette manière-là. Il se sert d'hommes et de femmes pour accomplir ses buts. C'est le cas avec Abraham, c'est le cas avec David, c'est le cas avec Noé, c'est le cas avec les apôtres, et j'en passe. Dieu pourrait faire tout ça sans nous, mais bien souvent, Dieu agit avec nous. Un nombre incalculable de fois aussi dans l'histoire de l'Église, Dieu s'est servi d'hommes et de femmes pour faire avancer son plan. Donc Dieu travaille avec les êtres humains. On ne peut pas vraiment dire que Dieu collabore avec nous, parce que si Dieu collaborait avec nous, ça signifierait que Dieu a besoin de nous. Ce n'est pas vraiment qu'il collabore, mais que c'est qu'il choisit de nous intégrer dans son plan. Il choisit de nous mettre au travail dans son plan. On a vu un homme sauvé pour sauver un peuple. Maintenant encore 2 minutes pour voir, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait demain de cela? Qu'est-ce qu'on en fait dans la semaine qui vient de cela? Comment un tel chapitre doit nous transformer? Je crois qu'il y a au moins 2 manières dont ce chapitre doit nous transformer. Premièrement, ce chapitre 2 de l'Exode nous donne confiance en la puissance de Dieu. On dit souvent, hein, Dieu est puissant, on dit même qu'il est tout puissant, on dit souvent qu'il est bon, qu'il veut notre bien, et on comprend que parfois, en fait, des épreuves nous arrivent, mais on est théoriquement conscient que le mal qui arrive est en fait quand même sous le couvert de la bonté générale de Dieu, n'est-ce pas? Mais on doit se poser une question, c'est est-ce que Dieu en est réellement capable? Est-ce qu'il est réellement tout-puissant? Est-ce qu'il est réellement bon? Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est physiquement apte à conduire ce monde? Et je trouve que dans un chapitre tel que celui-ci, on a en fait un exemple, une démonstration concrète que Dieu est tout-puissant, même dans les petits détails. Dieu maîtrise les émotions des personnages. Dieu maîtrise le timing des événements. Et s'il a pu le faire à l'époque de Moïse, il peut assurément le faire encore aujourd'hui. À l'époque de Moïse déjà, Dieu maintenait les océans à leur place. Il maintenait les lois de la gravité, il créait des supernovas aux confins de l'univers, il gérait toutes choses dans la vie des peuples de l'époque. Et de la même façon aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Il agit exactement de la même manière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis personnellement, actuellement. Peut-être que tu as des difficultés professionnelles. Peut-être que tu as des conflits internes en toi, des tentations, des luttes. Peut-être que tu vis des doutes par rapport à la foi. Ce chapitre est vraiment une démonstration historique que Dieu est tout-puissant. C'est une démonstration historique que tu peux t'abandonner dans ses bras. Tu peux réellement lui faire confiance parce qu'il a la puissance pour gérer les événements. Il a la puissance d'être le grand maître de l'histoire et de l'univers. Et je trouve que le fait de réaliser cela par des éléments concrets, c'est comme un torrent d'eau fraîche au milieu du désert. Au milieu de nos vies, on a une bouffée d'oxygène, on réalise que Dieu conduit les choses. On peut être en paix. Ce que nous désirons le plus, ce à quoi on aspire le plus, ce qui fait notre joie, ce qui nous fait nous sentir en sécurité, c'est que Dieu est tout-puissant et qu'il est le maître de l'histoire. Donc ça, c'était première application. Hein. Ce texte nous donne confiance en la puissance de Dieu. Et puis deuxième application, on a vu, hein, que Dieu se sert des hommes et des femmes, enfin des hommes, quand je dis des hommes, c'est hommes, les humains, quoi, hein, au sens large. Il se sert des hommes pour accomplir ses plans. Pas toujours, mais quand même assez souvent. Et je trouve que c'est une chose à noter dans ce texte. Dieu veut nous mettre en action dans son grand plan. pas du tout de la même manière que Moïse. Moïse était voilà, un être unique à une époque spécifique. Donc Dieu ne va probablement pas nous utiliser de la même manière que Moïse. Pas non plus de la même manière que les grands personnages de la Bible qui ont eu des rôles particuliers. Mais Dieu veut nous mettre en action dans son grand plan comme ses disciples. La question c'est, est-ce que nous voulons vivre cela? Ou est-ce qu'on est satisfait de vivre une petite vie tranquille, une petite vie chrétienne tranquille? Est-ce que nous sommes prêts réellement, comme Sarah, à nous mettre au service de Dieu? Même si ce service peut prendre des formes diverses, hein, est-ce qu'on est prêt à entrer dans les projets de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans les projets auxquels on n'avait pas pensé? Est-ce qu'on est prêt à être des témoins auprès de nos voisins? Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre confort pour servir notre Dieu? Je crois que Dieu s'est servi de Moïse sans vraiment lui demander son avis dans ce passage. Hein. Dieu conduit l'histoire, mais Moïse est juste en train de se laisser conduire par Dieu dans ce passage. Mais souvent, on voit quand même hein, que souvent Dieu se sert de celles et ceux qui désirent le servir. Alors j'aimerais nous poser la question, hein. Le désirons-nous? Est-ce que nous désirons servir Dieu? Et j'aimerais nous laisser cette question pour cette semaine. C'est le début de l'année scolaire. Dieu a des projets. Dieu a des projets pour notre région. Dieu a des projets pour notre église pendant cette année scolaire. Est-ce que nous désirons le servir? Le désirons-nous vraiment? J'aimerais vous proposer de nous poser cette question cette semaine. Chaque matin au réveil ou peut-être le soir quand on est dans notre lit, posons-nous cette question. Le désirons-nous? Je ne sais pas comment on dit ça à la première personne du singulier. Le désire-je? Enfin, le désir... On va le garder à la première personne du pluriel. Là. Le désirons-nous? Est-ce que nous désirons le servir? Moïse, un homme sauvé par Dieu pour sauver un peuple. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte. On veut te remercier pour ton action dans l'histoire. On veut te remercier pour ton action dans l'univers. On veut te remercier parce que tu n'es jamais dépassé par les événements. On veut te remercier et on veut t'adorer parce que tu nous montres dans Exode 2 que tu gères jusque dans les moindres détails le timing, les émotions et l'enchaînement des événements. Et je vais te demander de nous aider à vivre ces deux choses. Premièrement, à te faire confiance, à avancer dans la vie en sachant que tu es le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Et deuxièmement, en nous mettant à ton service. Transforme mon cœur, transforme nos cœurs à tous pour que nous désirions plus que tout te servir et entrer dans tes plans. Je te demande de faire ce miracle pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Et la raison pour laquelle nous aurions le désir de le servir, ça veut dire qu'il a tout accompli pour nous. Le peuple d'Israël avait été libéré d'Égypte, tout un peuple qui sort de l'Égypte, ça devait être une image incroyable. Moïse était aussi incroyable, mais être libéré du péché, de ce qu'on vit tous les jours, des choses qui nous rendent captives, être complètement libéré de ça, il y en a un seul qui l'a fait. Et c'était beaucoup plus fort.